Chapitre 22. Fantôme et vide. En regardant à travers les vitres sales du taxi, elle se prit à regretter l'absence de Colin et de ses commentaires acerbes. Puis elle se rappela que cela dépassait totalement le domaine d'expertise du guide virtuel. Maas Neotech avait-il conçu un appareil semblable pour l'étendue ? Se demanda-t-elle. Et si oui, quelle apparence avait son fantôme ? Sally, dit-elle au bout d'à peu près une demi-heure de trajet vers New York, pourquoi Pétale m'a-t-il laissé partir avec vous ?
Parce qu'il a été malin.
Et mon père ?
Ton père va en chier une pendule.
Pardon ? Il sera en colère, s'il le découvre, ce qui n'est pas certain.
Nous ne resterons pas longtemps.
Que faisons-nous ici ?
Je dois parler à quelqu'un.
Mais pourquoi je suis là, moi ?
Ça te plaît pas ?
Kumiko hésita.
Si.
Bien. Sally changea de position sur le siège cassé. Pétale a dû nous laisser partir parce qu'il n'aurait pas pu nous en empêcher sans blesser l'une d'entre nous. Bon, peut-être pas la blesser, mais disons l'insulter. Soit il aurait pu te retenir et puis s'excuser plus tard, dire à ton père que c'était pour ton bien au pire. Mais s'il me retient, moi, ce n'est plus la même, pas vrai ?
Quand j'ai vu Pétale avec le flingue, j'ai compris qu'il nous laisserait partir.
Il y a des micros dans ta chambre, dans toute la baraque. J'ai éteint les détecteurs pendant que je rassemblais ton équipement. Il savait que je le ferais. Pétale savait que c'était moi. C'est pour ça qu'il a fait sonner le téléphone pour me prévenir qu'il était au parfum.
Je comprends pas.
Un genre de politesse, pour que je sache qu'il attendait. Ça m'a laissé l'occasion de réfléchir. Mais il n'avait pas le choix, il le savait. Swain se retrouve dans l'obligation de faire quelque chose, tu vois, et Pétale est au courant. Bon, en tout cas, c'est ce que prétend Swain, qu'il est obligé. Moi, c'est sûr que je n'ai pas le choix. Alors j'ai commencé à me demander à quel point Swain a besoin de moi. Vachement. Parce qu'il me laisse me tirer avec la fille de Loya Boone envoyée jusqu'à Notting Hill pour la mettre à l'abri. Quelque chose lui fait encore plus peur que ton père. À moins que ce soit un truc sur lequel il compte pour s'enrichir davantage qu'avec ton paternel. Bref, t'emmener remet un peu les pendules à l'heure. Je leur rends la monnaie de leur pièce, en quelque sorte. Ça ne te dérange pas ? Mais on vous menace ?
Quelqu'un en sait pas mal sur ce que j'ai fait autrefois.
Éthique a découvert l'identité de cette personne ? Ouais, même si je m'en doutais. J'aurais préféré me tromper, putain. Sally avait choisi un hôtel à la façade couverte de plaques d'acier tachées de rouille et fixées par des boulons chromés. Un style que Kumiko avait déjà vu à Tokyo et qu'elle estimait passer de mode. Leur grande chambre proposait une dizaine de nuances de gris. Et Sally, après avoir verrouillé la porte, marcha tout droit jusqu'au lit, retira sa veste et s'allongea.
« Vous n'avez pas de sac ?»
dit Kumiko. Sally se redressa et entreprit d'ôter ses bottes.
« Je peux acheter ce dont j'ai besoin. Tu es fatigué ?»«
Non. Moi, oui. » Elle enleva son pull noir par-dessus sa tête. Elle avait une petite poitrine avec des tétons roses brunâtres. Une cicatrice partait sous le sein gauche pour disparaître dans la ceinture de son jean. « Vous avez subi une blessure ?» dit Kumiko en regardant la balafre. Sally baissa les yeux.
« Ouais. Pourquoi ne pas l'avoir fait effacer ?»«
C'est parfois bien de se rappeler. Les blessures ? Les conneries ?» Gris sur gris. Kumiko ne parvenait pas à dormir. Faisait les 100 pas sur la moquette grise. Elle trouvait à la chambre un côté vampirique qu'elle devait partager avec des millions de chambres semblables. Comme si sa déconcertante banalité vidait Kumiko de sa personnalité par lambeaux composés des voix de ses parents en pleine dispute ou des figures des secrétaires en costume noir de son père. Sally dormait, le visage désormais paisible. La vue par la fenêtre ne donna aucune indication à Kumiko. Seulement qu'elle regardait une ville qui n'était ni Tokyo, ni Londres. Un immense amas générique, paradigme de réalité urbaine de son siècle. Peut-être avait-elle sommeillé, elle aussi, même si elle n'en était pas sûre.
Elle observa Sally commander des articles de toilette et des sous-vêtements en tapant ses achats sur la vidéo près du lit. On les lui livra pendant que Kumiko se douchait.
« Bon, » dit Sally derrière la porte. « Sèche-toi et habille-toi, on va voir le Cador. »«
Quel Cador ?»
demanda Kumiko, mais Sally ne l'avait pas entendu. Gomi. 35% du Japon était construit sur du gomi, sur des étendues plates, volées à la baie par un siècle d'amas d'ordures systématiques. Le gomi, là-bas, était une ressource à gérer qu'il fallait rassembler, trier, puis soigneusement recouvrir. Londres avait une relation plus subtile, plus indirecte avec le gomi. Aux yeux de Kumiko, la majorité de la ville était faite de gomi, de structures que l'économie japonaise aurait depuis longtemps dévorées dans sa soif inextinguible d'endroits où bâtir. Ces structures révélaient pourtant à Kumiko le passage du temps, avec leurs murs réparés par plusieurs générations, lancés dans une restauration perpétuelle. Elle commençait tout juste à comprendre que les Anglais appréciaient leur gomi pour ce qu'il était. Ils vivaient dedans. Dans l'étendue, le gomi était différent, un humus riche, des décombres d'où naissaient des prodiges d'acier et de polymère. L'absence apparente de planification suffisait à lui donner le vertige, tant elle allait à l'encontre de l'efficacité avec laquelle sa culture utilisait l'espace. Leur trajet en taxi depuis l'aéroport lui avait déjà montré le délabrement. Pâtés de maisons en ruine, fenêtres sans vitres, ouvertes au-dessus de trottoirs jonchés de détritus. Et ses regards ébahis au passage de l'aéro. Sally la plongea sans transition dans l'étrangeté totale de l'endroit. Avec sa décrépitude et ses tours plus grandes que celles de Tokyo, obélisques d'entreprises qui perçaient les sommets entrelacés et couverts de suie des dômes. Après deux trajets en taxi depuis leur hôtel, elles rejoignirent les rues, les foules du début de soirée et les ombres obliques. Il faisait froid, mais pas autant qu'à Londres. Et Kumiko repensa aux fleurs du parc d'Ueno. Elles s'arrêtèrent d'abord dans un grand bar un peu miteux, le Gentleman Loser, où Sally eut une très brève conversation à voix basse avec un barman. Elles sortirent sans avoir pris de verre. « Des fantômes !» dit Sally en tournant au coin d'une rue, Kumiko à ses côtés. Les trottoirs s'étaient peu à peu vidés sur les dernières centaines de mètres, les immeubles devenus plus sombres et délabrés. Pardon ? Il y a tout un tas de fantômes pour moi ici. Oui, il devrait y en avoir en tout cas. Vous connaissez cet endroit ?
Ouais.
Ça n'a pas changé. Mais c'est quand même différent, tu vois.
Non.
Tu comprendras un jour. Quand on aura trouvé celui que je cherche, tu fais ton numéro habituel de jeune fille sage. Tu ne parles que si on t'adresse la parole.
Qui cherche-t-on ?
Le Cador. Ce qu'il en reste, en tout cas. Quelques centaines de mètres dans une rue vide et sinistre, Kumiko n'avait encore jamais vu de rue vide en dehors de la ruelle de Swain recouverte de neige nocturne, et Sally s'arrêta devant une vieille boutique peu engageante, ses vitrines jumelles opacifiées de l'intérieur par une épaisse couche de poussière. Kumiko regarda dedans et discerna les lettres en tube de verre d'une enseigne au néon éteinte « Métro », puis un mot plus long. On avait renforcé la porte entre les deux vitrines avec une plaque de tôle ondulée. Des anneaux de levage rouillés saillaient à intervalles réguliers, reliés par des longueurs de fil barbelés mal tendues. Sally se plaça face à la porte, releva les épaules et exécuta un enchaînement fluide de petits gestes rapides. Kumiko la regarda répéter la séquence.
« Sally, c'est du langage par signe !» la coupa Sally. « Je t'ai dit de la fermer, d'accord ?»
« Ouais !»
fit une voix à peine plus qu'un murmure, qui semblait venir de nulle part. « Je te l'ai déjà dit !» lança Sally.
« Je ne connais pas le signe. Je veux lui parler !» exigea-t-elle d'un ton sec et prudent.
« Il est mort !»
« Je le sais !»
Dans le silence qui suivit, Kumiko entendit un bruit qui aurait pu être le vent. une brise glacée et chargée de sable qui frappait la courbe des dômes loin au-dessus.
« Il n'est pas là !»
dit la voix avant de paraître s'éloigner.
« Tourne au prochain carrefour, un demi-pâté de maison plus loin. À gauche, dans la ruelle. »
Kumiko n'oublierait jamais la ruelle. Briques sombres et humides. Des bouches d'aération qui surplombaient des traînées noires de poussière congelée. Une ampoule jaune dans une cage de métal rouillé. Des bouteilles vides qui poussaient à la base des murs. Des nids de fax froissés et d'emballages de polystyrène blanc, assez gros pour un homme. Et le bruit des talons de Sally. Par-delà la pâle lueur de l'éclairage, tout n'était que ténèbres, même si l'éclat qui se reflétait sur la brique mouillée montrait un dernier mur, un cul-de-sac. Et Kumiko hésita, effrayée par un soudain écho, des pas précipités, de l'eau qui gouttait avec régularité. Sally leva une main. Un petit rayon de lumière très forte encadra un cercle bien défini de briques couvertes de graffitis, puis descendit doucement jusqu'à éclairer la chose en bas du mur, métal terne, installation cylindrique, que Kumiko prit pour une nouvelle bouche d'aération. Autour de sa base se trouvaient les restes de bougies blanches, une mince flasque en plastique remplie d'un liquide transparent, un assortiment de paquets de cigarettes, quelques clopes éparpillées et une silhouette, complexe, à plusieurs bras dessinés, visiblement avec de la craie blanche. Sally avança d'un pas, le faisceau toujours stable. Et Kumiko vit que l'objet blindé était vissé au mur avec de gros rivets.
Finlandais ?
Un bref éclat de lumière rose jaillit d'une fente horizontale.
« Hé, Finlandais, mon pote !»
Une hésitation inhabituelle dans son ton.
« Mal ?»
Une voix éraillée comme transmise par un haut-parleur cassé.
« C'est quoi cette lumière ? T'as plus de vision nocturne ? Tu vieillis ou quoi ?»«
C'est pour mon ami. »
Quelque chose, teinte rose maladive de la cendre incandescente d'une cigarette au soleil, bougea derrière la fente et le visage de Kumiko se retrouva inondé de lumière tremblotante.
« Ouais !»
dit la voix râpeuse.
« C'est qui, elle ?»«
La fille de Yanaka. »«
Sans déconner !»
Sally baissa la lampe qui tomba sur les bougies, la flasque, les cigarettes grises humides, le symbole blanc avec ses bras fins.
« N'hésite pas à prendre une offrande, »
dit la voix.
« Et un demi-litre de Moskovskaya, là. La marque Vaudou est faite avec de la farine. Pas de chance, les flambeurs les font en cocaïne. »«
Merde, »
dit Sally d'un ton étrangement détaché avant de s'agenouiller.
« J'y crois pas. »
Kumiko la regarda ramasser la flasque et en sentir le contenu.
« Bois, c'est de la bonne. Et intérêt, putain. Vaut mieux pas arnaquer l'oracle, si l'on veut s'en sortir. »
« Finlandais, »
dit Sally avant d'incliner la flasque, de boire et de s'essuyer la bouche d'un revers de main.
« C'est dingue, ma parole. »«
Si seulement... » Une installation comme celle-là, faut y aller pour qu'elle ait un peu d'imagination, alors pour qu'elle devienne dingue.
Kumiko s'approcha, puis s'accroupit près de Sally. C'est une reconstruction, une personnalité artificielle. Sally posa la flasque de vodka et défit un trait de farine humide du bout d'un ongle blanc.
Ouais, tu en as déjà vu ? Souvenir en temps réel à volonté, si je le souhaite, et relié au cyberespace, si j'ai envie. J'ai pris staff d'oracle pour ne pas perdre la main, tu piges ?
L'objet émit un bruit étrange, un rire.
T'as des problèmes de cœur ? Une méchante femme qui ne te comprend pas ?
De nouveau, l'éclat de rire, comme des cloches parasitées.
En fait, je fais plus dans le conseil pour le business. Ce sont les gamins du coin qui laissent des cadeaux. Ça renforce un peu le côté mystique. Et de temps en temps, j'ai droit à un sceptique, un connard qui croit pouvoir en croquer.
Un trait écarlate jaillit de la fente, et une bouteille explosa quelque part à droite de Kumiko. Rire de parasite.
Alors, qu'est-ce qui t'emmène ici, molle, en compagnie de...
La lumière rose éclaira de nouveau un instant le visage de Kumiko.
La fille de Yanaka.
La virée de Stralight, dit Sally.
A fait un bail, molle.
Elle me poursuit, Finlandais. 14 ans plus tard, j'ai toujours cette tarée au derche.
Peut-être qu'elle n'a rien de mieux à faire. Tu sais comment sont les riches.
T'as une idée d'où est Case, Finlandais? Peut-être qu'elle est à sa recherche.
Case s'est mis au vert. Il a réussi quelques bons plans après votre séparation, puis il s'est repris et a tout quitté. Si t'avais fait pareil, tu serais peut-être pas en train de te geler les miches au fond d'une ruelle, pas vrai? Aux dernières nouvelles, il a 4 enfants.
En regardant le balayage hypnotique du scanner rose, Kumiko crut comprendre à qui parlait Sally. Il y avait des choses semblables dans le bureau de son père, au nombre de 4, des cubes noirs, vernis, disposés le long d'une basse étagère en pin. Un portrait solennel était accroché au-dessus de chaque cube. Les images, photographies monochromes d'hommes en costume et cravate noire, montraient 4 messieurs à l'air grave dont les revers arboraient le même genre d'emblème métallique que portait parfois son père. Même si sa mère lui avait dit que les cubes contenaient des fantômes, les fantômes des ancêtres maléfiques de son père, Kumiko les trouvait plus fascinants qu'effrayants. S'ils abritaient bien des spectres, se disait-elle, ils devaient être plutôt petits, car les cubes étaient à peine assez grands pour contenir une tête d'enfant. Son père méditait parfois devant les cubes, agenouillé sur le tatami dans une attitude qui dénotait un profond respect. Elle l'avait vu dans cette posture à de nombreuses reprises, mais elle avait 10 ans lorsqu'elle l'avait entendu parler aux objets pour la première fois. Et l'un d'eux avait répondu. La question ne signifiait rien pour elle, la réponse encore moins, mais la calme intonation de la phrase du spectre l'avait figée à l'endroit où elle était recroquevillée derrière une porte de papier. Et son père avait ri de la trouver là. Plutôt que de la gronder, il lui avait raconté que les cubes abritaient les personnalités enregistrées d'anciens cadres et chefs d'entreprise. Leur âme, avait-elle demandé. Non, avait-il expliqué en souriant, avant d'ajouter que la différence était subtile. Ils ne sont pas conscients. Ils répondent lorsqu'on leur pose des questions avec des remarques proches de celles qu'auraient données les sujets. Si ce sont des fantômes, alors les hologrammes en sont aussi. Après le cours de Sally sur l'histoire et la hiérarchie des Yakuza, dans le bar à Robata d'Earlscourt, Kumiko avait compris que chaque homme sur les photos, les sujets à la base des enregistrements de personnalité, devait être un Oyabun. La chose dont le coffre blindé, estimait-elle, était sans doute de même nature, peut-être plus complexe, tout comme Colin était une version plus évoluée du guide Michelin que les secrétaires de son père emportaient lors de ses virées shopping à Shinjuku. Le Finlandais, comme l'avait appelé Sally, devait être un de ses amis ou une connaissance. Mais s'éveille-t-il lorsque la ruelle est vide? Se demanda Kumiko. Sa vision laser scanne-t-elle les chutes de neige nocturnes?
J'ai fait le tour de l'Europe, commença Sally, après avoir quitté Case. J'avais pas mal de thunes après l'expédition en orbite. En tout cas, ça me paraissait beaucoup à l'époque.
L'IA de Tessie Hpool me l'avait versée via une banque suisse. Elle avait effacé toutes les traces de notre montée dans le puits. Mais vraiment tout, hein. Genre, si on cherchait les noms sous lesquels nous avions voyagé sur la navette de la JAL, il n'y était plus. Case a tout vérifié après notre retour à Tokyo. Il s'est faufilé parmi tout un tas de données. On aurait dit que ça n'était jamais arrivé. Je n'ai pas compris comment elle était parvenue à faire ça, IA ou pas. Mais personne n'a jamais vraiment pigé ce qu'il s'était passé là-haut lorsque Case a fait traverser à ce brise-glace chinois la protection de leur banque de données.
Elle a essayé de prendre contact ensuite.
Pas que je sache. Il croyait qu'elle avait disparu en quelque sorte. Pas vraiment disparu, mais qu'elle s'était diluée partout, dans toute la matrice.
comme si elle n'était plus dans le cyberespace, mais qu'elle existait tout simplement. Et si elle ne voulait pas qu'on la voie, qu'on sache qu'elle était là, bah on ne risquait pas d'y parvenir. Et ceux qui étaient au courant n'avaient aucun moyen de le prouver à quiconque. Moi, je n'avais aucune envie de savoir. Peu importe ce que c'était, ça ne me concernait plus. Armitage était mort, Riviera et Ashpool aussi. Le pilote de remorqueur Rasta qui nous avait emmenés là-bas était retourné dans l'amas d'Osion et devait se dire qu'il avait dû rêver tout ça après avoir abusé de la ganja. J'ai quitté Case au Hayat de Tokyo et je ne l'ai jamais revu.
Pourquoi ?
Aucune idée. Rien de spécial. J'étais jeune et je me suis dit que c'était fini.
Mais vous l'aviez laissée dans le puits, elle. Astralite.
Exactement. Et j'y repense parfois, de temps en temps. Quand nous sommes partis, Finlandais, on aurait dit qu'elle n'avait rien à foutre de tout ça, alors que j'avais tué son taré de père pour elle et que Case avait percé leur banque de données et libéré leur IA dans la matrice. Je l'ai donc mise sur la liste. Tu vois, la liste. Qu'on mate le jour où l'on s'est assez attiré d'ennui pour devenir une cible.
Et c'était ta première suspecte ?
Non. J'ai une liste assez longue. Case, qui, d'après ce qu'avait compris Kumiko, était plus que le partenaire de Sally, n'aurait apparu jamais dans l'histoire. Tout en écoutant Sally résumer 14 ans de sa vie aux Finlandais, Kumiko se représentait cette femme plus jeune sous les traits d'une héroïne de Bishounen dans une vidéo romantique traditionnelle. Hautaine, élégante et fatale. Alors qu'elle peinait à suivre le récit très factuel de Sally, avec ses références à des endroits et des choses qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait aucun mal à l'imaginer remporter les victoires, rapides et aisées, attendues dans un Bishounen. Mais non, se dit-elle tandis que Sally évoquait une mauvaise année à Hambourg avec une soudaine colère dans la voix. Une fureur ancienne, l'année en question remontant à une décennie. Se représenter cette femme selon les standards japonais était une erreur. Il n'était pas question de renin de samouraï errant. Sally et le Finlandais parlaient affaires. Elle en était arrivée à cette mauvaise année à Hambourg, comprit Kumiko, après avoir gagné et perdu une petite fortune. Elle avait obtenu cet argent là-haut, dans l'endroit que le Finlandais avait appelé Strelite, associé avec le dénommé Case. Et elle s'y était fait une ennemie.
Hambourg !
L'interrompit le Finlandais.
J'ai entendu des histoires sur Hambourg.
Je n'avais plus de blé. C'est souvent comme ça avec les gros coups lorsqu'on est jeune. Sans thune, c'était retour à la normale en quelque sorte. Mais j'étais en cheville avec des gars de Francfort. Je leur devais de l'argent. Et ils voulaient que je les rembourse en leur rendant des services.
Quel genre ?
Que je tue des gens.
Et ?
Je me suis tiré, quand j'ai pu. Je suis venu à Londres. Peut-être estima Kumiko que Sally avait autrefois été une sorte de ronin, de samouraï. Mais à Londres, elle était devenue quelqu'un d'autre, une femme d'affaires. Elle n'avait pas précisé comment elle gagnait sa vie, mais elle s'était peu à peu métamorphosée en bailleuse de fonds pour diverses sortes d'opérations. Qu'était la représentation financière ? Et le blanchiment de données ?
Ouais,
dit le Finlandais.
Tu t'en es bien sorti. Tu avais même des parts dans un casino allemand.
Aix-la-Chapelle. J'étais au conseil d'administration. J'y suis toujours quand j'ai le bon passeport.
Tu t'es rangé ?
De nouveau le rire. Ouais.
Je n'ai pas eu vent de grand-chose ici.
Je dirigeais un casino, ça me suffisait, je m'en sortais.
Oh, tu participais à des combats, Misty Steel, poids plume avec un plan. 8 affrontements, j'ai pris des paris sur 5 d'entre eux. Des bastons sanglantes, chérie. Illégal ?
Un passe-temps.
Sacré passe-temps, j'ai vu des vidéos. Le petit Birman t'a bien amoché. Oh, c'était gore.
Kumiko repensa à la longue cicatrice. Alors j'ai arrêté. C'était il y a 5 ans et j'étais déjà 5 ans trop vieille.
Tu n'étais pas mauvaise, mais... Misty Steel, oh, sérieux.
Oh, c'est bon. C'est pas moi qui ai trouvé le nom.
Ouais. Bon, alors notre amie là-haut, comment elle t'a contacté ?
Par Swain. Roger Swain. Il a envoyé un de ses hommes au casino, un certain Pryor, un dur, soi-disant.
Il y a à peu près un mois.
Sway, le magouilleur, de Londres.
Celui-là même. Et Pryor avait un cadeau pour moi, près d'un mètre de feuilles imprimées. Une liste. Des noms, des dates, des lieux.
Des trucs qui craignaient.
Que ça. Des choses que j'avais presque oubliées.
La virée Straylight.
Tout. Alors j'ai fait mon sac, je suis parti à Londres et j'ai retrouvé Swain. Il est désolé, ce n'est pas sa faute. Mais il n'a d'autre choix que de me faire chanter parce que quelqu'un d'autre le tient par les couilles. Il doit gérer son propre maître de feuilles imprimées. Kumiko entendit les talons de Sally pivoter sur le trottoir.
Qu'est-ce qu'il voulait ?
Que j'enlève quelqu'un de connu.
Pourquoi toi ?
Allons, Finlandais ! C'est justement ce que je suis venu te demander.
Swain t'a dit que c'était Free Jane ?
Non, mais mon hacker de Londres, oui. Kumiko commençait à avoir mal aux genoux.
La gamine, tu l'as trouvée où ?
Elle a débarqué chez Swain. Yamaka voulait qu'elle quitte Tokyo. Swain lui était redevable, le guéri.
Elle est intacte en tout cas. Pas d'implant. D'après ce que j'entends sur Tokyo en ce moment, Yanaka est bien occupée. Et l'enlèvement, la personne connue ?
Poursuivit le Finlandais. Elle sentit Sally hésiter. Angela Mitchell. Le métronome rose se balançait en silence, de gauche à droite, de droite à gauche. Il fait froid ici, Finlandais.
Ouais, j'aimerais pouvoir le sentir. Je viens de faire un petit retour en arrière pour toi, un trip dans le passé. Tu sais d'où sort Angie ?
Non.
Je suis censé être un oracle, pas une bibliothèque, chérie. Son père était Christopher Mitchell, un cadre de la recherche dans les biopuces chez Maas Biolab. Elle a grandi dans un de leurs complexes fermés en Arizona, une gamine de l'entreprise. Il y a à peu près 7 ans, il s'est passé un truc là-bas. D'après ce qu'on raconte, Osaka aurait envoyé une équipe de pros pour que Mitchell change de camp. Dans les infos officielles, il fait mention d'une explosion d'une mégatonne sur le terrain appartenant à Maas. Mais personne n'a jamais relevé la moindre radiation. On n'a jamais retrouvé les mercenaires d'Osaka non plus. Maas a annoncé la mort de Mitchell. Un suicide.
Ça, c'est la bibliothèque. Que c'est l'oracle.
Ah, ce n'est que des rumeurs, rien de très cohérent. Elle aurait débarqué ici un jour ou deux après l'explosion en Arizona et elle aurait rejoint des Noirs hyper bizarres, basés dans le New Jersey.
Où ils faisaient quoi ?
Du commerce. De matos surtout. Ils achetaient, revendaient. Parfois, ils se fournissaient chez moi.
Bizarre à quel point ?
Des vaudous. Ils pensaient que la matrice était remplie de mambous et de conneries comme ça. Tu sais quoi ? Molle.
Quoi ?
Ils ont raison.